un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Uroboros, podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique. miroir.uroboros.net. La voix du silence. Fragment second. Les deux sentiers. Explication préalable. Nous allons voir aujourd'hui donc quelques petites explications préalables pour cette deuxième partie, pour le deuxième fragment, le fragment second de la voix du silence. Dans le texte tel qu'il est présenté, nous commençons par aborder la notion de deux écoles de la doctrine de Bouddha, l'ésotérique et l'exotérique, qui sont respectivement appelées la doctrine du cœur, donc l'ésotérique, et celle de l'œil, l'exotérique. La première, la doctrine du cœur, l'ésotérique, est nommée car c'est la voie du cœur de Gautama Bouddha, alors que la deuxième, la doctrine de l'œil, est appelée comme ça parce qu'elle est supposée être l'œuvre de sa tête, de son cerveau. Il est ensuite fait mention d'un terme appelé Alaya. Alaya, c'est l'âme universelle dont chaque homme possède en lui-même un rayon. Par ailleurs, nous avons la mention du terme Vajrasattva, c'est-à-dire l'âme diamant, qui est le titre du suprême Bouddha. Par la suite, le terme de Sat, que nous avons déjà vu, qui est la vérité, c'est la réalité une, éternelle, Sat. Nous avons une expression qui est également utilisée pour désigner le mental, qui est très intéressante, qui est celle de déterminer le mental comme étant un miroir amassant la poussière. C'est en fait la doctrine de Shenzhou. L'esprit humain est comme un miroir qui attire et reflète chaque atome de poussière et doit donc être surveillé et épousseté chaque jour. Par ailleurs, lorsque le texte fera mention de l'Amrita, Amrita, il sera question d'immortalité, et c'est à prendre à considérer en opposition à Maya, l'illusion. Maya, l'illusion, étant le temporel, l'éphémère, le périssable, alors qu'Amrita est l'immortel, l'immortalité. Puis, lorsque nous aurons la mention des Tirthikas, ce sont des ascètes brahmanes, mais les Tirthikas sont en réalité des brahmanes sectaires, au-delà de l'Himalaya, qui sont appelés infidèles par les bouddhistes de la terre sacrée, le Tibet. Et en réalité, vice-versa, ajoute Madame Blavatsky. Les Tirthikas étant aussi dans l'autre sens, les infidèles bouddhistes n'étant pas brahmanes. Mais dans le texte, cela, qui est un texte bouddhiste, cela désigne donc les infidèles brahmanes qui sont sectaires. Nous avons également la mention de Bodhi, à ne pas confondre avec Bouddhi, bien que les deux termes soient proches. Bodhi, c'est la sagesse vraie, la sagesse divine. Nous avons ensuite la mention d'un Aranyaka. Un Aranyaka est un ermite qui se retire dans la jungle et qui vit dans une forêt quand il devient yogi, il se retire du monde. Quant à Julai, que vous trouverez également spécifié dans le texte, Julai est le nom chinois de Tathagata, un titre appliqué à chaque Bouddha. J'ai déjà parlé du mental considéré comme un miroir, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le mental est évidemment au cœur de ce traité, et il est fait mention à un moment donné de « ce qui est en toi connaît, car c'est la connaissance ». Alors, il faut comprendre que le mental, manas, le principe pensant, est l'ego de l'homme. Il est donc relié à la connaissance même, parce que les égos humains, sont manasaputras, les fils du mental universel. Donc, le manas, l'ego, est la connaissance parce qu'il connaît. Par définition, l'ego de l'homme est relié au mental universel. Il sera fait ensuite mention de la robe shana. La robe shana, c'est la robe d'initiation. C'est le vêtement que peuvent revêtir, en quelque sorte, de manière imagée, les sages qui acquièrent par définition la sagesse. Cependant, il est surtout fait mention des trois vêtements, des trois robes du sentier, non pas la robe shana, mais les trois robes Nirmanakaya, Sambhogakaya et Dharmakaya. Alors ces trois robes-là, en fait, c'est une idée abstraite qui correspond aux trois aspects, aux trois sentiers en quelque sorte que peuvent prendre eh bien, les maîtres qui sont arrivés proches du nirvana, qui sont arrivés à la libération et qui peuvent choisir différentes façons de continuer leur cheminement spirituel. Nirmanakaya consiste à ce que l'arhat, le maître, qui est proche, enfin qui a atteint l'état de libération, refuse de quitter le monde, c'est-à-dire la terre, l'humanité, pour le nirvana, mais au contraire se constitue un corps subtil, donc c'est-à-dire Nirmanakaya, pour continuer de veiller sur elle, sur la terre. Quant à Sambhogakaya, nous dit Madame Blavatsky, il s'agit de la même chose, mais avec le lustre traditionnel de trois perfections, dont l'une est l'oblitération entière de toute préoccupation terrestre. Il faut donc comprendre que Sambhogakaya, c'est cette même chose, ce refus de se retirer totalement en nirvana, mais avec la notion de perfection. Donc voilà, il y a trois perfections supplémentaires, dont celle d'être détaché donc, de toute préoccupation terrestre. Alors que la troisième robe, qui est celle du Dharmakaya, consiste pour l'arhat à se retirer du monde, à laisser derrière lui toute relation possible avec le monde de la terre, avec le monde terrestre, avec le monde des hommes. Vous trouverez également la notion dans le texte de Shakyatopa. Alors lorsqu'on parle de Shakyatopa, il s'agit simplement d'un autre nom pour Bouddha, et il devient d'ailleurs un Srotapati, c'est-à-dire celui qui entre dans le courant de Nirvana. Parce que, nous dit Madame Blavatsky, le Nirvana est un courant. Généralement, ce n'est pas avec une première naissance qu'un disciple peut atteindre la libération. Il faut plusieurs naissances. On dit, d'après ce que dit Madame Blavatsky, qu'il faut 7 naissances pour le Shela pour arriver au Nirvana. Donc, on doit dire que le Nirvana est considéré comme un courant de vie et pas comme un portail unique. On pourra également noter la notion de mort-vivant, une chose surprenante. En réalité, lorsque le texte parle de mort-vivant, il désigne les hommes qui ignorent les vérités et la sagesse ésotérique. Enfin, un dernier concept, une dernière chose, ce sera les Pratyeka Buddha, qui sont en fait les bodhisattvas qui s'efforcent d'obtenir la robe Dharmakaya, donc qui entrent dans le nirvana pour disparaître de la vue et du corps des hommes en ne s'intéressant qu'à leur propre évolution spirituelle. Dans le bouddhisme du Nord, ajoute Madame Blavatsky, ce terme désigne également tout ce qui concerne l'égoïsme spirituel, le fait de ne s'intéresser qu'à sa propre spiritualité. Voilà, je laisse la parole désormais au texte.